Bonjour.
Bonjour.
La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Un jour, nous serons avec lui pour toujours. Et je relisais pendant le temps de louange ce passage qui me revenait à cœur. Tout à la fin de l'Apocalypse, il y a un cri qui sort du cœur de l'esprit et de l'épouse, qui disent « Viens !» et que celui qui entend dise « Viens !» Celui qui entend, vous entendez ce matin?
Oui.
Est-ce que dans vos cœurs, il y a quelque chose qui dit « Viens, Seigneur Jésus, viens !» On est tellement bien ici-bas, sur cette terre, que Seigneur prend pour quelques années, qu'il y a pour mes petits-enfants, qu'il y a mon travail, qu'il y a mes... On peut trouver mille et une excuses ou raisons pour retarder le retour de Jésus. Mais ça sera tellement bien quand on sera avec lui pour toujours.
Ouais,
ben voilà.
Vas-y.
Non, ça sera tellement bien. Et quand on pense que des générations de chrétiens ont attendu ce temps, ont attendu ce retour, ont attendu ce moment, si souvent annoncé, de la venue de Jésus, de l'enlèvement de l'Église, de son règne de paix, quand on voit ce monde, quand on voit cette terre souffrir, on a envie de dire, viens Seigneur Jésus, viens. Amen. Voilà. Ce matin, on va continuer dans la lignée des prophéties. Et c'est vrai, plus j'avance dans ce terrain, plus je découvre dans le fond que, comme Pierre le dit, les prophéties sont une lampe qui brille dans la nuit. La nuit qui vient sur ce monde, qui se fait de plus en plus obscur. Et plus on avance, plus les prophéties prennent du relief. Pas simplement parce que c'est écrit, mais parce qu'elles s'accomplissent. Imaginez si les prophéties ne s'accomplissaient pas. On serait vraiment les plus malheureux de tous les hommes, parce qu'on a un Dieu qui dit n'importe quoi. Et plus on avance dans ces prophéties, plus on découvre que ce que Dieu dit est vrai. Et il l'accomplit. Il y a l'histoire de l'humanité, et en parallèle ou dans l'histoire de l'humanité, il y a l'histoire de Dieu. Et cette histoire, personne ne peut la détourner, personne ne peut l'arrêter. Elle avance, elle avance, elle avance. Parfois, ça nous semble long, parce que peut-être que Dieu n'a pas la même notion du temps que nous, mais sa parole s'accomplit. Et on l'a vu au travers des différentes prophéties que nous avons tenté de comprendre, de saisir, d'expliquer. Mais je vous rappelle une chose que j'avais dit lors d'un des messages, c'est que la prophétie ne nécessite pas la foi. Tout d'un coup, on se dit, voilà, la prophétie ne nécessite pas la foi dans un premier temps. Parce que la prophétie est simplement l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Donc, d'une manière très intelligente et très rationnelle et très sage, je peux aller voir si cette parole s'est confirmée. Si elle ne s'est pas confirmée, je peux dire, bah, Dieu s'est trompé. Hein? Mais si elle s'est confirmée, ça veut dire que la prophétie, à un moment donné, va éclairer notre foi. Elle va faire du bien à notre foi. Moi, j'essaie d'imaginer ces chrétiens qui ont aimé Israël de tout temps, et qui pendant des siècles et des siècles lisaient la parole de Dieu et se disaient, mais c'est pas possible. Toutes ces prophéties annonçant le retour du peuple juif sur sa terre d'origine, sur la terre que Dieu lui avait donnée, ne s'accomplit pas. Ça fait presque 2000 ans, pendant près de 2000 ans, ou 1900 ans. Et des générations de chrétiens ont prié pour Israël, ont prié pour... Et un jour, cette parole s'accomplit. Et nous sommes la génération qui avons, enfin, nous, les plus âgés que moi encore, qui avons vécu ces moments. Lorsque Jérusalem a été réunifiée, lorsque le peuple juif est retourné sur ses terres, lorsqu'en une nuit, en un jour, le peuple d'Israël est revenu à la vie, c'est redevenu un État, une nation, enfin voilà. Donc tout ça fait que je peux aller contrôler dans l'histoire si ce que Dieu dit est vrai et s'est accompli. Alors ce matin, on va se plonger dans le chapitre 21 de l'évangile de Luc. On va s'arrêter sur ce que Jésus a transmis à ses disciples alors qu'ils se trouvaient sur le mont des Oliviers. On va voir quelques images. Si vous êtes déjà allé à Jérusalem, bien sûr que vous avez gravi la colline du mont des Oliviers que vous voyez ici devant vous. Et là, en ce jour-là, Jésus a rassemblé ses disciples. Il sait que son temps est compté. Dans quelques jours, il va être trahi par Judas. Et l'histoire va aller de l'avant. il va aller jusqu'à donner sa vie à la croix. Mais avant cela, Jésus va prophétiser, il va annoncer des choses à l'avance. Il va proclamer des choses à ses disciples, afin que lorsqu'ils verront ces choses s'accomplir, leur foi soit vraiment enracinée, fortifiée, encouragée. Et il va répondre à plusieurs questions que les disciples vont poser. J'espère que vous lui posez des questions à Jésus. Quand on lit la parole de Dieu, on a le droit de poser des questions, parce qu'il y a des choses qui nous échappent, il y a des choses qu'on ne comprend pas, et on a besoin que le Seigneur nous révèle ces choses. Alors je lis au chapitre 21 de l'évangile de Luc, et vous constaterez que sur le dia ici, il y a d'autres passages qui se trouvent dans l'évangile de Matthieu et de Marc. Et je pense que c'est important, lorsque on s'attarde sur un thème particulier, d'avoir devant soi ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. C'est-à-dire que quand vous mettez tous les évangiles ensemble, il y a des choses qui se recoupent, il y a des choses que certains évangélistes ont dit et d'autres pas, et on a une image globale de tout ce qui a été proclamé, annoncé, enseigné. Et si vous en restez qu'à un des évangiles, peut-être que vous n'avez qu'un aspect de la réalité. C'est comme si trois journalistes écrivaient un article sur un événement important qui s'est produit ou un match de football ou de hockey. Chaque journaliste a vu la scène d'une manière un peu différente. Puis quand on les met ensemble, on a vraiment l'ensemble de la scène. On se rend compte de ce qui s'est passé. Donc je vous encourage beaucoup, ça existe, hein, les évangiles synoptiques, et vous pouvez ainsi remonter toute l'histoire avec ce que chacun a dit dans chaque situation qu'il décrit. Donc Luc 21, verset 5. « Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, « Les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » On va passer à la deuxième dia. Voilà ce que les disciples voyaient depuis le Mont des Oliviers, à l'époque. Maintenant, ça a changé parce qu'il y a eu des guerres, il y a eu des transformations de ce lieu. Mais voilà ce que les disciples voyaient. Donc, imaginez cette construction imposante et Jésus leur dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ça peut paraître invraisemblable, incroyable. Et puis, Jésus va donner d'autres détails de ce qui va se produire par rapport aux quatre questions que les disciples vont poser. La première, quand aura lieu la destruction du temple? Parce que c'est quand même pas courant, un événement pareil. Quel sera le signe de sa destruction? Et puis, deux autres questions, quels sont les signes de la fin des temps et quels sont les signes de retour? Alors ce matin, on va s'arrêter sur les deux premières questions, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à partager, à dire. Là, on va toucher, je dirais encore une fois, l'aspect historique des choses, pour qu'on puisse se situer dans ce que les premiers chrétiens, les premiers disciples ont vécu. C'est important d'avoir une notion historique des choses, de pouvoir se resituer dans l'histoire, et de pouvoir voir que cette histoire est imprégnée de la présence de Dieu et imprégnée de sa volonté. Donc on va s'arrêter d'abord sur la prophétie concernant le temple. Pour remettre aussi les choses dans l'histoire, vous rappelez qu'il y a eu plusieurs temples dans la vie du peuple d'Israël. Il y a eu d'abord le temple de Salomon en 587 avant Jésus-Christ, que les Babyloniens ont détruit à un moment donné, et le peuple a été déporté en Babylonie. Donc ils s'emparent de Jérusalem, ils pillent le temple et ils l'incendient. 587 avant Jésus-Christ. Puis ensuite, il y a le retour de l'exil sous le règne du roi Cyrus, qui permit la construction d'un temple, celui de Zorobabel, c'est lui qui s'en charge, en 537. Puis ensuite, il y a celui d'Hérode. Il démolit l'ancien temple, et puis il reconstruit un sanctuaire d'une beauté extraordinaire, 20 ans avant Jésus-Christ. Et c'était un endroit vraiment imposant, il était deux fois plus grand que le précédent. Donc le temple d'Hérode qu'on voit maintenant. Et si vous allez à Jérusalem, il y a aussi la Jérusalem miniature, et vous pouvez considérer cet ouvrage assez impressionnant. Et puis, le jour des rameaux, Jésus va proclamer une autre parole en Luc 19, 43, donc avant cette proclamation à ses disciples, où il dit devant ses foules, « Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Il y a un temps de la visitation de Dieu, et si on passe à côté, eh ben c'est comme on disait ce matin, si on n'est pas sage, on devient sot. Hein? Bon, en tout cas, on peut avoir pas mal d'ennuis. Donc, ce que Jésus dit est quelque chose de très sérieux. Et parfois, on est là devant cette parole de Dieu, une parole de Jésus, et on a tant de peine à la prendre au sérieux, pour nos vies déjà, personnellement. Alors imaginez pour tout un peuple, quand tout un peuple était concerné par une parole, on leur dit, parce que vous n'avez pas pris conscience que vous étiez visité, bien voilà ce qui va vous arriver. Et c'est vraiment des conséquences graves. Donc, les disciples posent la question, quel sera le signe que ces choses vont s'accomplir? On va passer au dia 4. C'est intéressant de voir aussi que dans l'histoire, des personnages ont eu une influence incroyable sur l'histoire, et Vespasien fait partie de ces gens-là. En 66, il y a une révolte juive contre l'occupation romaine. À plusieurs reprises, bien sûr, que les Juifs ont essayé de se libérer, dans le fond, de cette occupation. Et en 66, c'est la révolte qui gronde. Et puis, en 68, Vespasien, avec son armée, l'armée romaine, va non seulement entrer sur le territoire d'Israël, mais encercler de plus en plus la Judée et va monter en direction de Jérusalem avec toute son armée. Et l'armée romaine était vraiment impressionnante, n'est-ce pas, à l'époque. Et en 68, il y a un autre événement qui se produit dans l'histoire, c'est le suicide de Néron. Néron, cet horrible empereur qui avait persécuté les chrétiens, se suicide dans des circonstances dramatiques, bien sûr. Et il y a des troubles dans l'Empire. Et il y a une accalmie en Judée, on se calme en Judée, parce qu'on ne sait pas trop qui va lui succéder, on ne sait pas ce qui va se passer, et ça va être la lutte des petits chefs là, pour prendre le pouvoir. Et en fait, en 69, donc après Jésus-Christ, hein, donc à peu près 40 ans après la mort de Jésus, Vespasien est proclamé empereur, voilà le nouvel empereur romain. Donc il retourne à Rome, il abandonne son armée là-bas, voilà, en Palestine, et puis il retourne à Rome pour se faire introniser et pour asseoir son pouvoir. Donc la guerre est mise un peu entre parenthèses. Donc cette montée des armées romaines en Judée, autour de Jérusalem, se calme un petit peu. Et là intervient quelque chose de très particulier. Les chrétiens, donc les juifs qui ont adhéré au Messie Yeshua HaMashiach, se rappellent de la parole de Jésus. Il y a des moments où il faut vraiment se rappeler de ce que Jésus a dit. Il y a des moments, voilà, où, mais il y a des moments vraiment clés. Il y a des moments kairos dans la vie. C'est maintenant ou jamais. Hein? C'est maintenant ou jamais. Donc les chrétiens vont se rappeler cette parole de Jésus. Luc 21:20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que la désolation est proche. Prochain diable. La désolation est proche. Je ne sais pas, voilà, ce matin je parle, je dis des choses, vous allez partir d'ici, vous allez peut-être vous rappeler d'une ou deux phrases, de quelques mots, d'une citation, je ne sais pas. Ce qui est important, c'est qu'au moment décisif, je puisse me rappeler de ces paroles. Et là, ces paroles de Jésus ne sont pas tombées dans les oreilles d'un sourd, mais ils vont s'en rappeler. Alors, que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Voilà ce que Jésus a dit. Et ils ont écouté. Et ils prirent cette parole au sérieux. Et ils quittèrent en masse, dans ce temps d'accalmie, ils quittèrent en masse la ville de Jérusalem, et les environs, rappelez-vous quand même que ce sont des dizaines de milliers de juifs qui ont adhéré au Messie dans les premiers temps, dans les persécutions. C'était impressionnant, hein? Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Hein? Et
voilà, les gens étaient attirés par Jésus et pour eux c'était quelque chose d'important. Donc c'est pas une petite poignée d'hommes, quelques disciples ou apôtres qui ont vite pris la poudre d'escampette, mais ce sont des milliers de personnes qui vont quitter ces lieux. Et ils se retirèrent. On peut prendre la... Donc là, vous avez les armées romaines avec Titus qui va donc reprendre en fait la gouvernance de l'armée. C'est le fils de Vespasien. C'est lui qui va entraîner ensuite ses armées à prendre Jérusalem. Et on va prendre la prochaine dia. Et là, vous avez à peu près les endroits où voilà, les premiers chrétiens se sont rendus. Donc de Jérusalem, ils sont partis du côté de Pella, dans les montagnes, et ils sont allés aussi dans ce qu'on appelle la Décapole. Ça, c'est aussi intéressant de voir. Quand on lit comme ça les actes des apôtres, on se dit, ben voilà, Jésus avait dit, vous serez persécutés, vous serez amenés devant des rois, pour témoigner, pour raconter l'histoire, etc. Puis on ne se rend pas compte que ces moments-là, Dieu les utilise, parce que Dieu connaît toutes choses. Chaque détail peut compter pour lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ces chrétiens partent dans ces contrées-là et on va voir qu'il y a une interaction entre les événements historiques qui n'échappent pas au regard de Dieu parce qu'il est dit que l'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme. Hein, et on est ramené en 59 après Jésus-Christ, dans les actes des apôtres. L'apôtre Paul est arrêté à Jérusalem, il est conduit à Césarée. Et puis là, le pauvre, pendant 2 ans, il est là dans une prison, à Césarée. Parce que, ben voilà, ils ne sont pas très pressés de condamner ou de faire son procès. Et Festus, qui est devenu procurateur, enfin gouverneur, a son palais à Césarée. Paul doit comparaître à un moment donné. Et, étonnamment, il reçoit la visite du roi Agrippa II. Et le roi Agrippa II est roi de ces contrées-là, de la Décapole. Ah, attention, qu'est-ce qui va se passer là? Intéressant. Ça a l'air de rien. Quand on lit les actes des apôtres, ben voilà, un roi qui est arrivé, mais bref. Hein. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, Paul va rendre témoignage de sa conversion à Jésus-Christ. Devant Festus, devant Agrippa II, puis devant un ensemble de personnages importants qui sont là. Hein. Et il témoigne de ce qui s'est passé dans sa vie. Et il rappelle devant ses rois et ses gouverneurs que les chrétiens ne sont pas des dangers pour l'État. Ils ne sont pas des dangers pour l'État romain. Ils ne sont pas des dangers pour le pouvoir en place. Un chrétien ne vient pas provoquer la révolution, la rébellion, pas du tout. Hein? Donc c'est intéressant de voir, quand les armées romaines vont prendre Jérusalem, les chrétiens eux sont partis parce qu'ils ne veulent pas se révolter contre Rome. Par contre, les zélotes, qui étaient des juifs ultra-nationalistes, ben, tous les Romains qui passaient sous leur nez, ben, ils les trucidaient, et ben, eux, ils vont en reprendre plein la figure. Hein. Voilà, juste pour dire. Donc, Paul témoigne. Et puis, vous avez Agrippa, Festus qui sont là. Et Agrippa, lui, il écoute aussi. À tel point qu'à un moment donné, il est saisi par le témoignage de Paul. Il dit, mais ce gars, il a vécu des trucs incroyables. C'était quand même un homme religieux important. Voilà. Et puis, à un moment donné, il va dire au chapitre 26, verset 27, alors c'est Paul qui pose la question à Agrippa parce qu'il voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de, voilà, de se passer là. Puis il dit, crois-tu aux prophéties, Agrippa? Je sais que tu y crois. Ouh là là, je pense que le gars ne veut pas se sentir bien à ce moment-là. Hein? Et Agrippa lui répond, mais Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'Agrippa est devenu chrétien, mais il a entendu dire que les chrétiens n'étaient pas des dangers. Et il va les prendre sous son aile. C'est-à-dire qu'aucun témoignage n'a été rapporté de chrétiens qui auraient été persécutés ou qui auraient été mis à mort sous le règne du roi Agrippa. Vous voyez comme l'histoire se... Hein, Dieu, non, on a un peu, vous êtes perdus là, bien ça va.
Ça va.
Hein, ça, voilà. Moi, j'ai eu le temps de m'y préparer, de lire tout ça. Et vous, je vous envoie d'un endroit à l'autre. Mais c'est intéressant de voir la connexion qu'il y a entre tous ces textes, aussi en lien avec les prophéties. Si l'apôtre Paul n'avait pas comparu devant Agrippa et Festus, peut-être que les choses auraient tourné complètement différemment. Donc, c'est beau de moi. J'aime bien voir ces interactions qui se font. Donc ce face-à-face va avoir un impact près de 10 ans plus tard. Hein, quand les choses commenceront de mal tourner là-bas, eh bien, voilà, les chrétiens trouveront des lieux d'asile en attendant que les choses se calment. Et puis en septembre, ce qui devait arriver arriva. Vespasien donc, a remis la tête de l'armée à son fils Titus. Et puis le 9 d'Av, donc ça c'est un des mois du calendrier juif, le temple est incendié. C'est quelque chose de terrible pour le peuple juif. Ce d'autant plus que les Babyloniens avaient aussi incendié le premier temple le 9 d'Av. Donc c'est vraiment une date maudite pour le peuple d'Israël, ce 9 d'Av. Et les Juifs sont déportés, dispersés dans tout l'Empire, près de 100 000 Juifs. Est-ce que vous vous imaginez? Ce n'est pas quelques dizaines ou centaines de 100 000 Juifs sont déportés. Sont vendus aussi sur les marchés d'esclaves. Là, ce n'est pas le prix du pétrole qui va descendre, c'est le prix de l'esclave. À un moment donné, ils ne savent plus quoi faire. Il y a tellement de main-d'œuvre à disposition que l'esclave ne vaut quasiment plus rien. Hein, juste pour la petite anecdote. Et l'État juif, en 135, disparaît totalement, même s'il reste des petits foyers d'implantation dans quelques villages de la Galilée notamment. Donc, disparition complète. Vous voyez ce que Jésus a dit? Et quand on voit l'imposant temple, on se dit, mais comment c'est possible avec les moyens de l'époque de faire disparaître cela? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et ce que Jésus a annoncé, malheureusement, s'accomplit. Alors on va entrer dans une deuxième partie. C'est la question concernant Jérusalem. Parce que Jésus va dire une autre parole au chapitre 21, verset 24. Il dit, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Vous voyez comme c'est précis, hein, c'est incroyable. D'une précision, mais chirurgicale. Hein. Et, écoutez bien, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il y a un temps pour les nations. Alors je vous donne ce temps. Vous les nations, prenez ce temps. Moi je vais voir ce que vous allez en faire de ce temps. Hein. La première partie de la prédiction de Jésus s'est réalisée. Et le magnifique temple donc, d'Hérode est détruit. C'est un tas de ruines. Le peuple est dispersé et ça va durer près de 20 siècles, cette dispersion. Est-ce qu'on s'en rend compte? 20 siècles. Et Jérusalem est désormais entre les mains des nations. On va passer à la prochaine diapositive. Après les Romains, qui c'est qui va prendre le relais? Les Arabes, les croisades, les Turcs, les Ottomans, il y a eu les Byzantins aussi entre deux, enfin voilà, il y a eu les Perses, les Sassanides, puis ça va se terminer avec les Anglais. Hein. Le mandat britannique sur la Palestine, vous avez entendu parler de ça, n'est-ce pas? Donc c'est les Anglais qui terminent. Mais au travers de ces 20 siècles d'histoire, c'est le temps des nations. Allez-y, ok, faites ce que vous pensez être juste, vous les sages des nations. Hein. Voilà. Et c'est les Anglais. Et Jésus précise bien jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. C'est-à-dire qu'à un moment donné, stop. Stop. Mais personne ne sait quand viendra ce stop. Il ne peut venir que de Dieu. Parce que les nations, elles continueraient, continueraient à faire leur histoire à elles. Et là aussi, la prophétie s'accomplit. Comme nous l'avons vu dans le message précédent, en 1967, lors de la guerre des six jours, personne ne s'y attendait. Tout le monde pensait que Israël allait être écrasé en quelques heures, quelques jours. Et c'est le contraire qui se passe. Et on a vu ces incroyables images où les troupes israéliennes entrent dans Jérusalem, repoussent la légion arabe, les soldats jordaniens, et arrivent au pied du mur des Lamentations. Et là, c'est l'explosion de joie. Ça fait 2000 ans qu'ils n'avaient pas vécu ça. Bien sûr, il y avait un petit couloir du temps où la Jordanie avait un mandat sur Jérusalem, et puis de 10 mètres de large sur 20 mètres de profond, puis de temps en temps, quelques juifs étaient autorisés à aller verser une larme devant ces guerres. Mais ce jour-là, c'est tout un peuple qui retrouve les fondements, les bases mêmes. Alors, bien sûr, en dessous, il y a autre chose, mais les bases mêmes de son ancien temple. Donc c'est quelque chose d'incroyable. Le temps des nations est accompli. Si on pouvait dire, ça peut durer des siècles et des siècles, si ça ne venait pas de Dieu. Et Jérusalem est donc proclamée capitale de l'État d'Israël. Voilà, les choses se mettent en place. Rien ne peut résister à l'histoire de Dieu, rien. Et puis ce qui est intéressant, et je vais terminer par là, l'accomplissement d'une prophétie engendre une nouvelle prophétie. Je ne sais pas si vous avez réalisé. Parce que, je ne sais pas comment ça se fait, mais je sais qu'à un moment donné, quand quelque chose arrive à son terme et s'est accompli, on n'est pas dans un temps d'arrêt, de stand-by. Maintenant ça s'est accompli. Non. Une parole s'accomplit et une autre arrive à prendre vie. Parce que la parole de Dieu est vivante. Et quand il a fini de dire quelque chose et de l'accomplir, hop, il y a autre chose qui vient et qui naît. Hein. Donc, l'accomplissement d'une prophétie en engendre une autre. Vous savez que Jérusalem a un dessein hors du commun. Jérusalem a une histoire très particulière. Et avant d'être la capitale de l'État d'Israël, que ça plaise ou non, hein, elle est la propriété de Dieu. Psaume 132, verset 13. L'Éternel a choisi Sion. Pardon, Valais, hein, donc Sion. Hein, ça, il y aurait des problèmes avec Constantin, là, je pense. On s'y entend très bien, hein, la stratégie, Non. L'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Dieu a des désirs aussi dans son cœur. Il t'a désiré, par exemple. T'es sa Jérusalem, t'es son temple, saint dans le Seigneur. Mais il y a une ville, il y a un lieu, il y a un endroit sur cette terre que Dieu a choisi de tout temps. Et ce n'est pas aux hommes de dire à Dieu ce qu'il doit choisir ou pas. Que ça plaise aux Arabes, que ça plaise aux nations, que ça ou pas, peu importe, Dieu dit, ça c'est ma ville, et cette ville-là, je la chéris. Hein? Donc, les hommes, les nations ne veulent pas que Dieu demeure au milieu d'eux. Ils veulent pas. Il l'a désiré pour sa demeure. Donc une demeure, c'est un endroit où on va habiter en général. Hein? À moins d'être multimillionnaire, qu'on s'achète des demeures partout sur la surface de la Terre sans jamais y aller. Mais quand Dieu veut demeurer quelque part, eh bien, il peut y demeurer. Mais on voit que les hommes, les nations, les êtres humains ne veulent pas que Dieu demeure, ni dans leur vie, ni dans le lieu choisi par Dieu. Ils contestent en particulier le monde musulman, mais ils résistent aussi. Alors Dieu enclenche une nouvelle prophétie. Oh, ça c'est de la sagesse. Vous voulez pas ça? Pouf! C'est comme s'il y a un embranchement nouveau qui sort, hein. Parce que si les nations avaient dit, on est d'accord que Sion devienne la demeure de l'Éternel, ça viendra un jour, hein. Il demeurera avec eux, etc. Mais non, ils ne le veulent pas. Alors, Dieu enclenche une nouvelle prophétie. Zacharie 12:2. Je ferai de Jérusalem une cour d'étourdissement. Une cour d'étourdissement, pas seulement pour le monde arabe, mais pour tous les peuples d'alentour, pour tous les peuples. Aussi, on se dit que c'est quand même incroyable. Au 19e siècle, plusieurs historiens relatent que Jérusalem, c'était une petite bourgade de rien du tout, qui vivait dans une espèce de misère crasse, entourée de dunes de sable, j'entends. Personne n'aurait eu l'idée d'aller à Jérusalem. Eh bien non. Parce que Dieu l'a décidé. Et il va faire de ce lieu un lieu mais d'étourdissement, une coupe d'étourdissement. Hein. Vous avez déjà été étourdi dans votre vie. Hein. Qui c'est qui a déjà été étourdi, hein. Là, il ne faut pas boire trop. Hein, ça peut arriver, hein. Mais là, on n'est pas très bien, on ne sait plus trop où on en est, on titube. On est en train de se coucher. Quand on se couche, ça ne va pas, il faut se relever. Enfin, vous avez peut-être déjà connu ce genre de nausée. Mais c'est une nausée. On ne supporte plus. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, on sait bien que Jérusalem est devenue une cour d'étourdissement. Mais si on pouvait faire disparaître ça, aller la moitié aux Arabes, la moitié aux Juifs, puis qu'on n'en parle plus, puis maintenant qu'on se calme, voilà. Eh bien non. Et un jour, Et ça, c'est une des prochaines prophéties qui ne s'est pas encore enclenchée, mais déjà peut-être politiquement, toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Ça, c'est prévu au programme. C'est prévu. Et on le sent déjà politiquement, hein, quand il y a ces grandes rencontres de l'ONU où toutes ces nations s'élèvent contre Israël, s'élèvent contre... Alors, ça ne veut pas dire qu'Israël fait tout juste, mais dans sa situation, qui ferait tout juste. Hein. Franchement, voilà. Si les Suisses allemands, les Suisses italiens, les Français nous attaquaient, nous les Romains, qu'est-ce qu'on ferait, hein? On ne ferait pas tout juste non plus. Donc, voilà, on monte contre Jérusalem, on monte contre Israël, et on veut aller à contre-courant de la volonté de Dieu. Mais, il y a un mais, et c'est ce que nous verrons dans le prochain message, dans 2 semaines. On va s'arrêter là. Voilà le diable que je voulais vous proposer pour la fin de ce message. En ce temps-là, on appellera Jérusalem trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. Et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Ça, c'est ce que Dieu annonce. Et moi, je prends ce que Dieu annonce et pense que les Nations Unies annoncent. Alors, pour terminer, nous ne voulons pas que ces faits prophétisés qui se sont accomplis tout au long de l'histoire et dont nous sommes aujourd'hui les témoins, produisent en nous de la crainte, de la peur, de l'appréhension, de se dire « mais c'est terrible ce qui va arriver », et puis là on pense à nos familles, à ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, à nos petits-enfants, puis on se dit « non mais Seigneur, papa maintenant, attends encore qu'ils se convertissent ». Ben, hein, on ne sait pas tout ce qui peut se passer en nous. L'Esprit et l'Épouse disent « viens Seigneur Jésus, viens ». Et il y a cette espèce de tension intérieure chez le chrétien en se disant « mais oui, j'aimerais que le Seigneur vienne, mais une fois que ma famille sera sauvée, ou je ne sais pas, une fois qu'il y aura eu un grand réveil dans le monde, puis il n'y aura plus que 2 impies, ou voilà, non, je ne sais pas ». Donc, cette tension, on va la vivre jusqu'au bout. Mais c'est intéressant de voir aussi que Jésus, lorsqu'il s'adresse à ses disciples, et en leur annonçant ces choses quand même qui ne sont pas très agréables à entendre, d'accord, je pense qu'il peut être un peu choqué. Dis, attends, si Jésus se trompait, quand même, non, mais on ne va pas détruire ce temple, c'est pas possible. Puis quand même, l'armée romaine, enfin bref, on peut imaginer. Hein. Mais Jésus est clairvoyant aussi. Il leur annonce des choses très difficiles, mais il leur dit, chapitre 21, verset 9, « Quand vous entendrez parler de guerre, de soulèvement, ne soyez pas effrayés. » Ne soyez pas effrayés. Est-ce que tu es effrayé par ces situations? Ben Jésus te dit, ne sois pas effrayé. Ne sois pas effrayé. Et au verset 8,
c'est dans
c'est dans Luc. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez la tête, votre délivrance approche. Donc on n'a pas à courber les chines devant ces situations, on n'a pas à avoir honte. Au contraire, on peut lever la tête, on n'est pas effrayé. Alors bien sûr, encore une fois, et là je termine, si je ne suis pas effrayé, ça veut dire que je suis très conscient de la situation. Je ne suis pas dépassé par les événements qui se produisent dans ce monde. Et je peux être, pour ceux et celles qui m'entourent, un poteau indicateur. Je peux leur dire, écoute, parce que plein de gens aujourd'hui disent, c'est terrible ce qui se passe dans le monde, puis tu verras, il va arriver l'islam, des minarets partout, la bombe atomique, l'Iran, on peut dresser mais quelque chose de noir absolu. Et les gens sont conscients. Et je pense que c'est dans ces moments-là qu'en tant que chrétien, voilà, eh bien, si on n'est pas effrayé, on peut dire des choses sages, on peut dire des choses intelligentes. Et écoutez, c'est vrai, mais est-ce que vous connaissez les prophéties? Est-ce que vous savez ce que Jésus a annoncé? Est-ce que vous connaissez ces paroles? Et là, vous pouvez, en quelques instants, conduire quelqu'un de son effroi à cette paix en Christ. Et c'est ce que nous leur souhaitons du plus profond du cœur. Alors, on va s'arrêter là. On continuera sur les 2 autres questions et sur les réponses historiques de ce que Jésus a dit dans 2 semaines. Mais nous voulons nous arrêter là maintenant. Nous voulons prier. Seigneur, nous avons cet immense, immense, immense privilège de pouvoir plonger nos regards dans ta loi parfaite, dans ta parole de vie. Seigneur, on ne sait pas comment tu t'y es pris pour nous amener à croire en toi, alors que nous étions là sans espérance et sans Dieu, alors que nous étions complètement ignorants de l'histoire que tu avais déjà inscrite et que tu voulais continuer d'inscrire dans ce monde. Merci Seigneur d'avoir ouvert notre cœur, les yeux de notre cœur, afin que nous sachions. Et aujourd'hui, nous sommes dépositaires de ces incroyables prophéties. Aucun média ne les relaye, aucun média n'en parle, alors que les choses sont évidentes. Et nous voulons te prier ce matin pour que dans ces temps difficiles, ces temps de la fin, nous puissions non seulement être reconnaissants d'être les héritiers de ton histoire, mais nous te prions pour que tu nous rendes capables d'être ces témoins dans notre temps, dans notre génération. Merci pour celles et ceux qui ont osé nous parler de toi un jour, qui devaient peut-être trembler à l'idée de parler de toi. Mais tu as fait ton œuvre dans nos cœurs, tu as trouvé la porte de nos cœurs. Seigneur, nous voulons te prier ce matin pour que ton Église soit debout, la tête levée, non pas effrayée, mais confiante en ce que tu vas accomplir dans ce monde, au milieu des nations, à la gloire de ton nom. Amen.
Amen.